On est en train de perdre la bataille.
Le dernier rapport du GIEC, c'est on a jusqu'à 2030 pour faire une bascule radicale.
Si on ne change pas rapidement les choses très vite, plus rien n'aura d'importance.
On est ridicule. Nos enfants nous jugeront comme des criminels.
Les objectifs des accords de Paris sur le climat signés en décembre 2015 étaient de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. Or, on apprend qu'en 2018, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse et n'ont même jamais été aussi élevées depuis 3 millions d'années. Le GIEC, dans son dernier rapport, prévient qu'entre 1,5 et 2 degrés d'augmentation, les conséquences vont être majeures, que l'Arctique pourrait d'ores et déjà être condamné, qu'il serait trop tard pour le sauver. Bref, que le combat contre le réchauffement climatique serait de fait un combat perdu. Bonjour Jeanne Gérardi.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Versailles-Saint-Quentin, rattachée au laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est perdue?
Non, la lutte contre le changement climatique n'est pas perdue. Le dernier rapport du GIEC dont vous venez de parler, justement, met en évidence que des actions sont encore possibles pour limiter ce changement à 1,5 et avec tout un tas de précisions et d'actions de proposer pour agir, mais agir dès maintenant et aussi vite que possible.
Ça veut dire que l'objectif d'augmentation de 1,5 degré par rapport aux normes pré-industrielles, hein, c'est bien ça à quoi on se réfère, c'est encore possible malgré la poursuite de l'augmentation des émissions de CO2.
À l'heure actuelle, le réchauffement, enfin en 2018-2019, hein, les derniers enregistrements sont une moyenne de 2018. Donc à l'heure actuelle, on a augmenté d'un degré par rapport à cette référence pré-industrielle. Donc pour viser 1,5, il reste 0,5 degré. Selon les estimations, selon les différents scénarios qui sont proposés, au rythme actuel, on atteindrait ce réchauffement de 1,5 degré entre 2030 et 2050.
C'est 0,5 degré en plus. Est-ce qu'on a les moyens d'empêcher d'aller au-delà, ou est-ce que ça fait sens de se dire qu'on va arrêter du jour au lendemain ces émissions alors qu'elles continuent encore aujourd'hui?
Il s'agit avant tout de décisions politiques et d'engagements politiques, parce que les moyens sont là.
Le GIEC dit dans son dernier rapport qu'il faut réduire de 45% les émissions d'ici 2030 et arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors d'une, qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? Et deux, 2030, c'est dans 10 ans, c'est juste demain. Est-ce que ces objectifs sont des intentions, ce vers quoi il faut tendre, ou est-ce que ce sont des objectifs que l'on peut atteindre, Jeanne Gérardi?
Ces adjectifs sont atteignables puisqu'ils reposent sur différents scénarios socio-économiques qui mettent en avant différents usages de l'énergie, une décarbonisation de l'énergie, c'est-à-dire un transfert de l'énergie fossile vers une énergie plus propre sur la base d'éolien, de solaire et autres sources d'énergie renouvelable.
Qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone?
La neutralité carbone, c'est le fait que l'ensemble des émissions que nous allons continuer d'émettre, puisque c'est de par nos consommations, etc., soit compensée par tout un tas d'actions. On parle de capture du CO2. Alors ça, ce sont des mesures plutôt de géo-engineering, mais également toutes les mesures basées sur la nature, comme de reforestation. Faire en sorte que l'ensemble des émissions que nous émettons soient compensées par tout un tas d'actions liées à nos propres usages, mais également liées à la conservation des différents composants du système climatique, comme l'océan, comme les forêts, comme le sol, et comme l'usage des sols, etc.
Une étude récente montre que l'Arctique serait perdu, c'est-à-dire que compte tenu aujourd'hui des émissions et du réchauffement, la calotte glaciaire va tendre vers une disparition et qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit.
Les études vont effectivement dans ce sens-là. Le constat est que le réchauffement observé au niveau de la région arctique, il est 2,4 fois supérieur au réchauffement global. La glace de mer est de plus en plus fine, de plus en plus jeune, de moins en moins étendue. Ça va générer ce qu'on appelle des rétroactions positives, un cercle vicieux, ce qui fait que moins on a de glace de mer, plus on a une absorption de rayonnement solaire, donc un réchauffement. Ce sont des cercles vicieux, en fait. Et effectivement, on est rentré dans ce processus-là. Ce qui préoccupe également beaucoup, c'est tout ce qui est le dégel du pergélisol, c'est-à-dire tout ce sol qui a été gelé depuis des milliers d'années et qui peut atteindre une profondeur très importante, qui est en train de fondre. C'est un sol qui est très riche en matière organique, donc en fondant, il rejette, il relargue du CO2 et du méthane et ne fait que contribuer à cette dynamique-là, donc un autre cercle vicieux. Voilà.
Ça pose la question de se dire dire si aujourd'hui, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, on arrêtait soudainement toute émission de gaz à effet de serre, est-ce que tout aussi soudainement, les températures du globe se mettraient à baisser ?
Le CO2, le gaz carbonique, il a une durée de vie qui est estimée autour de la centaine d'années. Donc il va mettre plus d'une centaine d'années avant d'être extrait de l'atmosphère. Le méthane, lui, il a une durée de vie de 10 ans seulement, mais il a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus important que le CO2. Tout ça contribue à ce que, même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre maintenant, tout de suite, on aurait des conséquences du réchauffement sur les centaines, voire milliers d'années à venir.
Est-il vrai que, par rapport à tous les modèles prédictifs, pour le moment, on est toujours dans le haut de la courbe, voire au-dessus du haut de la courbe?
Oui. Si on reste comme ça en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on reste dans la tendance supérieure. Et alors qu'on a les moyens de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre.
Il y a eu un autre point important qui est ce qu'on appelle le point de basculement qui revient dans un certain nombre d'études, en anglais le tipping point, qui serait celui, ce point hypothétique, peut-être qu'il n'existe pas d'ailleurs, mais à partir duquel finalement la machine, cette inertie s'emballerait et on ne pourrait plus y mettre un terme même avec des actions extrêmement volontaristes. Est-ce que c'est une réalité en sciences de l'environnement, ce tipping point, ce point de basculement? Et l'a-t-on déjà dépassé ou pourra-t-on mesurer le moment où on le dépassera, Général Hardy?
Donc oui, ces fameux points de basculement ou points critiques au-delà duquel de petites perturbations peuvent générer de grandes modifications du système, ce sont effectivement des préoccupations très importantes dans la communauté scientifique. Il y a un projet tout récemment qui vient d'être financé par l'Union européenne qui va justement s'intéresser à six points critiques comme la stabilité de la circulation océanique méridienne, comme la stabilité des calottes glaciaires arctiques ou antarctiques, comme l'évolution de la forêt amazonienne ou le système de moussons asiatiques ou sud-américains. Donc tout ça, ce sont des points critiques, mais qui sont malheureusement peu compris à l'heure actuelle. On arrive à les observer dans les archives paléoclimatiques. En revanche, en termes de modélisation, comme la plupart de ces processus impliquent des interactions qui sont non linéaires, la modélisation et la compréhension de ces points critiques est très complexe et on n'arrive pas, à l'état actuel des connaissances, à déterminer si on a atteint le tipping point ou le point critique, ou si on s'en rapproche, etc. Et donc c'est vraiment un domaine scientifique très complexe où il y a beaucoup d'efforts de fait.
Mais est-ce qu'il faut garder une lueur d'optimisme ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà se préparer à un après, c'est-à-dire à un après basculement dans un autre type de système climatique qui serait déréglé?
Je reste positive et optimiste dans le sens où les solutions, on les a. J'ose penser que les hommes sont intelligents et vont prendre conscience de ça. Il y a une vraie prise de conscience actuelle qui va dans ce sens-là. On a les solutions, on peut être en mesure et il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir qui arriveront. Donc j'ose croire et le dernier rapport du GIEC me donne espoir parce qu'on a les éléments, on sait quelles sont les actions à favoriser. Enfin, effectivement, ça requiert un changement de vie, un changement sociétal très important qui va être long à mener, mais j'ose penser que c'est encore possible, oui.
Et peut-être grâce aux nouvelles générations qui sont plus mobilisées.
Certainement.
Que les anciennes. Merci beaucoup Jeanne Gérardi d'être venue nous parler de ces questions de réchauffement climatique. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'université Versailles-Saint-Quentin, rattachée au laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.